Bonsoir le club, Maxime Binet.
Bonsoir le club, bienvenue dans notre émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses. Au sommaire du club, la plénière entre les présidents retardés, tout se joue cette semaine. Bardouever espère unir les cinq de l'Arizona ce mercredi, mais Voreut coince, ses syndicats font pression sur Conor Rousseau. Nous reviendrons notamment sur la réforme des pensions envisagée par l'Arizona, la gauche et vent debout. On n'est pas à la botte du MR, des tensions sont-elles en train d'apparaître entre les libéraux et les engagés? Nous reviendrons sur cette grève de deux jours des enseignants et sur les autres dossiers potentiellement explosifs entre les deux partenaires de la fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, nous reparlerons de la situation fédérale en troisième partie. Conor Rousseau est-il avant tout un communicant ou un président? Pourquoi, alors que beaucoup annonçaient un accord pour ce week-end, tout a été retardé? Quel rôle ont joué les syndicats? On en débat en fin d'émission. Bienvenue sur N24 et sur N Radio. Plus jamais vous ne verrez la politique comme avant. C'est promis, comme tous les soirs, nous sommes avec nos trois chroniqueurs de l'actu pour commenter l'actualité politique de la journée. Bonsoir Catherine Arens.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée en politique pour le magazine Moustique. L'horizon Arizona, c'est le titre de votre article présent dans le Moustique. C'est promis, dites-vous, les politiques travailleront pour les générations à venir et pas pour leur réélection. Faut-il les croire? Vous posez d'ailleurs la question. Bonsoir Caroline Sagesser.
Bonsoir.
Vous êtes politologue pour le CRIS, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Merci d'être présent en plateau. Et enfin, bonsoir Franz-Yvan Hunstein.
Bonsoir Maxime.
Vous êtes éditorialiste pour La Libre Belgique. Les gens n'ont rien appris de Schmitt, écrit La Libre, qui est revenu sur cette commémoration des 80 ans. Voilà, pour les présentations, on passe aux éditos. C'est à la une des éditos. Bardouever y croit-il encore? C'est ce qu'écrit ce matin en édito de Morgan. Ce n'est que mercredi que le formateur Bardouever devrait réunir à nouveau les présidents de parti de l'Arizona. Mais une nouvelle échéance semble déjà pointer à l'horizon pour atterrir. La Saint-Valentin, c'est cette nouvelle date qui apparaît. Les socialistes flamands sont-ils prêts à faire des concessions? En tout cas, ce week-end, ils ont rappelé leur ligne rouge, bien poussée par les syndicats. Nous en parlerons avec nos chroniqueurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que De Morgan se pose cette question. Bardouever a-t-il vraiment, mais vraiment envie de réussir ces négociations? On va débuter ce débat avec Francis Van de Woonstein. Depuis le début, ce quotidien flamand se pose des questions sur Bardouever. A-t-il raison de se poser des questions concernant l'envie de réussir de l'homme fort de la NVA?
Un journaliste a toujours raison de se poser des questions, ainsi que tout citoyen.
Ah, d'accord.
Moi, je pense que Bardouever a vraiment, vraiment envie de réussir. Il a vu le roi déjà 17 reprises, oui. Et s'il avait vraiment envie de jeter l'éponge, il a déjà eu 1000 fois l'occasion de le faire. Donc je pense que pour lui, c'est un peu le sommet de sa carrière. Et même s'il est indépendantiste et il rêvait plutôt dans sa prime jeunesse de créer un État flamand indépendant, membre de l'Union européenne, il peut se retrouver prochainement, disons dans les quelques semaines qui suivent, à la tête d'un gouvernement fédéral au sein d'une Belgique dont il conteste l'existence par ailleurs. Mais je pense qu'il a sa volonté à lui est véritablement d'obtenir un accord. Enfin, moi, je trouve que donc, pour le 31 janvier, puisqu'il a lui-même mis cette deadline, hein, ainsi que les autres présidents de parti qui négocient, il a dit, si on n'y arrive pas le 31, j'allais dire si c'est le 32 ou le 33, hein, donc c'est pas grave, mais je veux dire, vous parliez de la Saint-Valentin, après la Saint-Valentin ce sera Pâques, et puis il y aura le 21 juillet.
Vous ne croyez pas trop à cette date?
Si.
14 février.
Ah non, mais non, pourquoi le 14? Non, le 31. Ok, le week-end, on va leur donner peut-être 2 jours de rabiot, disons. Mais non, ça suffit. Je veux dire, je sais pas moi, le monde est en train de changer avec l'élection de Trump. Je ne sais pas moi, il y a un désastre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine ne s'arrête pas, Goma va tomber au sein des rebelles du N23. Enfin, et nous, on est là, en train de se demander si on va limiter les allocations de chômage dans le temps, si on va revaloriser quelles allocations. Enfin, je ne sais pas, il me semble qu'il y a une urgence. Enfin non. il n'y a pas d'urgence, semble-t-il, en Belgique. Mais si, il y en a une quand même.
Eh bien, on va en parler dans quelques instants, mais parlons aussi eh bien, de la situation politique qui a déjà changé depuis ce matin. Un certain nombre de coups de fil ont été passés par notre rédaction. Catherine Hernène, je pense que c'est votre cas aussi. Clairement, vous pensez qu'on est dans une phase de dramatisation des négociations, c'est quand on arrive à la fin, lorsqu'on voit le bout du tunnel, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème au sein des cinq de l'Arizona et surtout auprès des socialistes flamands?
Alors, moi, ce que je pense, c'est que je comprends qu'on dise ça suffit, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû le dire, hein, parce qu'on est de nouveau confronté, et de manière cette fois totalement incompréhensible, à la culture politique belge de la procrastination, qui consiste à à toujours reporter dans les négociations les points difficiles, et donc à prendre du temps, parce qu'on n'a pas de date butoir. Alors, on s'en est mis combien cette fois-ci? 17 fois chez le roi. Ça veut dire que Bardoévre ne fait pas mieux que précédemment. On est maintenant dans une... Alors que la NVA disait, oui, mais on ne sait plus faire un gouvernement dans ce pays parce que toute la Flandre est à droite.
Mais on est en train de le prouver, Bardoévre.
Il n'a pas ces données-là en main et il n'arrive même pas à marier la Flandre et les francophones dans un gouvernement après plus de 6 mois. Alors, on se demande si on va atterrir ce week-end ou le 14 février, mais ma foi, moi, je ne sais pas du tout si on va atterrir ce week-end. Alors, est-ce qu'on est dans une phase, cette fois-ci, de dramatisation? Il y en a qui essayent de le faire. Du côté des engagés, les échos que j'ai, c'est qu'effectivement, ils veulent absolument entrer dans la dramatisation. Et donc, enfin, on se tait, parce qu'on a eu des fuites partout. Les fuites partout, c'est pas synonyme de dramatisation et de fin de négociation. Moi, je ne crois pas qu'on a encore les signaux qui permettent de dire aujourd'hui que ce week-end, on aura un accord.
Oui, certains libéraux qui négocient aussi disent qu'il est probable qu'on arrive à un accord ce week-end. Peut-être
mais
la
parce
nuit
que
à
les
samedi,
libéraux
dimanche,
tiennent le haut
dimanche,
du pavé
lundi.
Et comme ils tiennent le haut du pavé, on ne conclut pas parce que Voreuil a un problème avec l'accord tel qu'il est. La dernière super note de Bardoévre n'a jamais été autant à droite. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il se positionne réellement dans une logique de compromis au-dessus de la mêlée? Est-ce qu'il veut vraiment réussir? Ou est-ce qu'il y a un jeu? Et c'est ce qu'on me dit quand même, à qui sera le plus à droite entre Boucher et Deweyvre, qui fait que la négociation coince, avec en plus Voreut qui, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, est la voix de la gauche qui est dans la rue aujourd'hui.
Ouais, et la pression, la manifestation nationale a bien eu ses effets, notamment sur le bureau politique de Conor Rousseau. D'ailleurs, Conor Rousseau ne veut pas vivre la même chose que lors des communales, notamment sur Gand, où eh bien, il y avait un meeting de parti et que finalement l'accord a été refusé. Caroline Sagesseur, bon, Voreut, est-ce qu'il a raison de tergiverser face aux réformes qui sont annoncées concernant la réforme des pensions, concernant la non-indexation aussi des allocations sociales et de chômage? Ça paraît lourd pour un parti socialiste. Même
oui,
Voreut ne porte plus le nom socialiste dans son nom.
Je crois que Conor Rousseau a raison de montrer les dents quelque part, pour deux raisons essentiellement. Il essaye d'arracher éventuellement une dernière concession dans cette dernière ligne droite, et puis surtout il est impératif pour lui de montrer à ses troupes qu'il a fait le maximum pour défendre ce qui pouvait être défendu. Parce que le péril pour lui, et je pense qu'il veut conclure un accord, et certainement que Frans Vandenbroek le veut encore plus que lui, donc je crois qu'il va y avoir un accord. Par contre, il y a quand même un risque pour Voreut, c'est que le congrès de parti n'avalise pas l'accord. Et donc c'est important de montrer qu'on est allé jusqu'au bout du possible, ce qui explique cette forme de dramatisation à laquelle nous assistons actuellement.
D'accord, on en parlera aussi en troisième partie, mais Conor Rousseau veut se couvrir. Alors,
il doit impérativement se couvrir et montrer qu'il a été combatif jusqu'au dernier moment dans cette négociation.
Parlons des lignes rouges de Voreut. Une indexation une fois par an, y compris pour les fonctionnaires et les services publics. Fin de l'indexation des allocations sociales et du chômage. Plus-value boursière taxée seulement à 5%, c'est peu. Une taxe compte-titres augmentée à 0,25%. Harmonisation aussi des régimes de fin de carrière. Malus pension. Francis Van Woonstein, c'est vrai que c'est dur là, hein.
Oui,
c'est un programme de droite, hein.
Oui, mais c'est une coalition de droite.
Avec Voreut.
Avec Voreut, mais avec quatre partis qui sont en tout cas au centre et qui penchent quand même très fort au centre droit. On dit même que les socialistes flamands sont plus à droite que les socialistes francophones, hein, donc notamment sur les questions de l'immigration. Donc je comprends que Conor Rousseau est envie d'avoir des gages et de montrer qu'il s'est battu comme un forcené, si vous voulez, jusqu'au bout pour essayer d'arracher certaines choses. Mais il savait très bien, c'était dans le programme des autres partis, qu'il y aurait, d'ailleurs on parlait au départ, d'une suppression de l'indexation automatique des salaires. Dans la note de Bart De Wever, ce n'est pas, donc l'indexation est maintenue, mais elle serait réalisée, donc il y aurait une harmonisation entre le privé et la fonction publique, il y aurait donc une indexation une fois par an. Donc il faut quand même rappeler que il n'y a plus que 4 pays qui pratiquent une indexation automatique des salaires. La Belgique, Chypre et Malte, je ne connais pas bien la situation de Chypre et de Malte, et le Luxembourg. Le Luxembourg, que je connais un peu pour des raisons amicales, disons, je comprends qu'ils indexent automatiquement les salaires. C'est un pays extrêmement riche, je veux dire, ils ont les moyens de le faire. A-t-on chez nous des entreprises qui peuvent se permettre d'indexer automatiquement les salaires? Je rappelle qu'en 2023, l'indexation des salaires c'était quand même de 11%. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'augmenter les salaires de 11% chaque année. Certaines nuit, d'autres pas. Est-ce que l'indexation doit être valable pour tous les salaires? Oui, est-ce que quelqu'un qui gagne 4 ou 5 000 euros par mois doit être encore indexé?
Vous pensez que Voreuth peut accepter ces différents numéros?
C'est même pas une question de Voreuth. Moi, je me pose quand même comme question si l'électorat de ceux qui forment l'Arizona, de manière plus globale, notamment des engagés ou du CNDNV, mais prenons ceux des engagés, qui ont voté pour... plus d'efficacité et pour une plus-value pour les gens qui travaillent. Mais si la plus-value des gens qui travaillent, c'est de créer un différentiel parce qu'on on n'indexe plus les allocations et que donc effectivement ils ne gagnent pas un euro en plus comme travailleurs, mais effectivement les allocations sont plus basses. Je veux dire, je ne pense pas qu'ils seront très séduits par la solution qui est trouvée.
Il faut quand même rappeler qu'il faut trouver 22 milliards et que voilà, il faut.
Mais c'est pas ce qu'on avait entendu durant la campagne. Hein.
On sait très bien que la situation financière de la Belgique est dramatique et que
c'est des raisons des communautés aussi. L'indexation salariale, c'est un mécanisme. Dire que c'est un mécanisme de pays riches, ce n'est pas vrai. C'est un mécanisme belge qui n'a été contesté par aucun économiste comme étant quelque chose qu'on avait de particulier, mais qui fonctionnait bien. Alors pourquoi va-t-on chercher de l'argent sur quelque chose qui maintient une forme de paix sociale et de pouvoir d'achat correct.
Francis Van Woonstein.
Non, mais nous sommes. Enfin, les 4 pays que j'ai cités, je ne connais pas, je répète la situation de Malte et de Chypre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 pays?
Non, mais la Belgique est très rare dans son
cas. Mais les autres pays ne sont pas dans une situation financière aussi dramatique que la nôtre. Donc, effectivement, il faut trouver 22 milliards et il faut un subtil équilibre entre des économies d'une part et des taxes
de l'autre. Avance
et donc là, on revient simplement pour conclure sur la problématique de Voreuth qui a dit nous, on veut que ça soit les épaules larges qui financent quand même une bonne partie. Alors, et ça, on a vu dans la dernière super note, on avait réduit de moitié la somme qu'on allait chercher sur les... Donc il faut tout dire.
D'accord, mais justement, par rapport au totem des socialistes flamands, Karine Sagesser, on sait que chaque parti veut glaner une sorte de totem pour montrer devant son électorat que oui, il a bien négocié et que oui, il va respecter cet accord de gouvernement. J'ai beau chercher, je vois pas grand-chose. Plus value boursière taxée à 5%, c'est peu. Taxe compte titre augmenté de 0,15% pour arriver à un 0,25%, c'est très peu. On parle pas non plus de taxes des milliardaires.
Non, effectivement, au niveau de la fiscalité, il y a ces avancées du point de vue de Voreuth en Belgique. Taxer les plus-values, c'est quand même quelque chose de résolument novateur. Maintenant, effectivement, la taxe reste modeste. Et il y a aussi une exemption qui est prévue jusqu'à, je crois, 6 000 euros, ce qui est quand même un montant qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc, on n'assiste pas à un véritable shift de la fiscalité des revenus du travail vers les revenus du capital, ce qui est effectivement quelque chose que la gauche réclame depuis longtemps. Donc oui, disons, le contexte, Francis le rappelait très bien, le contexte de contraction budgétaire fait qu'il n'y a pas beaucoup de totems que la gauche puisse espérer obtenir. Et dans ce cadre-là, effectivement, elle s'accroche à cette indexation des salaires, sachant que c'est extrêmement populaire, effectivement, Catherine l'a rappelé, parmi la population, quand bien même, effectivement, la Belgique est un cas exceptionnel et que nous sortons d'une période où on a bien vu que l'indexation automatique des salaires a coûté très cher aux entreprises et qu'elle a nourri l'inflation. L'inflation a été particulièrement élevée.
Caroline Sagesser, il y a aussi cette réforme XXL des pensions. On annonce une réunion des 5 en plénière ce mercredi où sera normalement présentée une sorte de pré-accord gouvernemental avant la signature et l'aboutissement d'un accord de majorité au niveau fédéral. Vous pensez que Voigt va y aller ?
Est-ce que vous avez l'impression qu'il manque une étape ? C'est-à-dire que mercredi, 48 heures avant l'entrevue avec le roi, dire voilà, on va présenter un pré-accord de gouvernement alors qu'il n'y a pas d'accord sur les principales mesures de cette fameuse supernota, il y a quelque part une réunion au finish qui manque entre les deux. Donc comment continuer à croire qu'il va y avoir un accord de gouvernement incessamment sous peu? Je ne suis pas sûr qu'il sera prêt pour vendredi, parce que là, ça paraît vraiment très court.
Je crois qu'il manque de courage. Je veux dire, tout est sur la table depuis des mois. Ils ont changé les mesures à la marge. Mais à un moment donné, un président de parti s'engage. Il est donc responsable de ses troupes, de ses électeurs, et il doit pouvoir franchir effectivement le Rubicon, quitte à laisser passer des choses qui sont compliquées pour lui. Et c'est ce qui va se passer. Chacun va sortir avec son totem en disant, regardez, voilà ce que j'ai obtenu et voilà aussi ce que j'ai réussi à combattre. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est la négociation, c'est ce que les Français n'ont pas connu, c'est que chacun vient avec ses propositions et puis on pousse dans l'entonnoir et puis on a quelque chose d'un peu hybride, mais au moins la Belgique a un gouvernement de plein exercice.
Catherine Hernens.
Mais ces incantations-là ne marchent plus depuis 10 ans. Les 10 dernières années, on est resté pendant 3 ans au total sans gouvernement.
Il y a toujours des gouvernements. Hein.
Oui, mais parce que les formations sont d'une longueur épouvantable, parce qu'il n'y a pas de deadline. Et là, Vivaldi avait promis de créer un processus. Mmh. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait encadrer la formation et la sortir de conditions. Mais personne, aucun parti, ne s'est mis d'accord sur une solution qui forcerait à contraindre la formation d'un gouvernement au bout d'un laps de temps.
Voilà. Merci. Caroline Sagesson, vous voulez rajouter peut-être
un petit mot de conclusion. Je pense qu'effectivement, le délai déraisonnable mis à former un gouvernement fait que même si nous avons un accord de gouvernement ce week-end, je crois qu'on doit poser un constat d'échec sur le processus de formation du gouvernement.
Eh bien, voilà. Dans l'actualité, il y a aussi cette grève de 48 heures des enseignants ce lundi et ce mardi. Les syndicats sont vent debout contre les réformes du Califion et la fin de la nomination des professeurs. C'est la séquence punchline du jour. Nous ne sommes pas à la botte du MR. Ces déclarations nous proviennent de la chef de groupe des engagés à la Fédération, Mathilde Van Dorp, était invitée du Café Sans Filtre. Écoutez. Les engagés sont pour vous toujours un parti en faveur des enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas une friture sur la ligne entre vous et votre partenaire, le mouvement réformateur, sur la communication notamment de toutes ces mesures ?
Je crois que chaque parti a son identité, mais on a une ligne de conduite qui est la déclaration de politique communautaire. Et donc on doit se baser sur cette ligne de conduite. Si des petits ajustements sont à faire en termes de communication, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un manque de
communication. La communication de la ministre ? Valérie Glatini.
La communication du gouvernement de manière générale, de la ministre Glatini ici en particulier, mais je pense que clairement la ministre Elisabeth De Grise a pris les choses en main.
Voilà, Mathilde Van Dorp était l'invitée de LN Radio et de LN 24 ce matin. Catherine Hernens, pourquoi les engagés sont-ils obligés de rappeler qu'ils ne sont pas à la botte du MR ?
Si sur l'enseignement ils ne le font pas, ils ne le feront sur rien. Pourquoi ? Parce que c'est quand même Joël Miliquet, historiquement, qui a lancé le pacte d'excellence, qui a été entre leurs mains, à part la séquence avec Caroline Désir. Et donc, ils maintiennent, c'est vraiment leur core business que d'être aux côtés des enseignants. Et depuis le début, on a du mal à les entendre, et ils essayent, moi je les ai entendus plusieurs fois, Mathilde Van Dorp, elle porte vraiment ce dossier pour dire, nous, on est humain dans ce contexte. Nous, on va aller du côté d'une école qui vont mieux, alors qu'on a une ministre Glatini qui, dans ce gouvernement-ci, est dans une position très, très compliquée et très au-dessus de ce qui se passe au niveau du terrain des enseignants.
Caroline Sagesseur, est-ce que c'est déjà la fin de l'idylle entre le mouvement réformateur et les engagés au niveau de la Fédération des Bruxelles, entre les deux partenaires ?
Oui, Maxime, vous dites déjà, moi j'ai envie de dire enfin, hein, parce que
ça fait 7 mois
pour une lune de miel, c'est long, finit par se lasser. Non, mais comme Catherine le dit très bien, sur cette question de l'enseignement, on sait très bien que le monde de l'enseignement a une proximité historique avec le PC, le CDH, les engagés maintenant, en particulier évidemment tous les enseignants de l'enseignement. l'enseignement libre. Donc oui, c'est impératif pour eux de montrer au minimum qu'ils sont solidaires des difficultés qu'on rencontre dans le secteur de l'enseignement. Je pense pas que ça signifie qu'il y ait vraiment de l'eau dans le gaz au niveau du gouvernement, loin de là. Et je pense même que ça peut servir ce gouvernement que d'avoir comme ça des figures qui jouent un peu le rôle de bad cop, good cop, mais ça peut permettre de remettre un peu
c'est
tout
ça
le monde
se jouer, good cop, bad cop.
Je crois que ça peut en tout cas permettre de mettre un peu d'huile dans les rouages et éventuellement de remettre tout le monde autour de la table.
Ok, d'accord. C'est vrai que eh bien, la ministre Valérie Glatigny, l'enseignement obligatoire et la ministre présidente de la Fédération des Bruxelles, à savoir Elisabeth De Grees, les engagés, eh bien, souhaitent concerter les différents acteurs de l'enseignement en groupe de travail et qu'il n'y aurait aucun tabou, y compris concernant les réformes dictées par la DPAC, la déclaration politique de communauté. Francis Van de Woonstein, c'est vraiment ça qui est en train de se jouer, le good cop et le bad cop entre Valérie Glatigny et la ministre présidente de la Fédération, Elisabeth De Grees? On s'est partagé un peu les rôles, là?
Oui, bon, je pense qu'il y a deux problèmes. D'une part, il y a un manque d'explication et de pédagogie. Parce que ce que contestent les manifestants n'est pas toujours ce qui est inscrit dans les projets. D'ailleurs, les textes ne sont pas encore réellement déposés.
Sur WhatsApp, oui. Il y a carrément des fake news qui circulent entre les écoles, les professeurs et les directeurs.
Oui. Et donc, qui charrie des informations qui sont totalement fausses et donc qui poussent les enseignants dans la rue. Donc il y a un problème d'explication. Il y a aussi peut-être le fait que ce gouvernement a mis tout sur la table de manière un peu rapide. Donc il y a la réforme du qualifiant, il y a la fin de la statutarisation, il y a la réforme des pensions.
Oui, une partie était dans le pacte de 2017. Une partie était dans le pacte de 2017.
Oui, tout à fait. Mais donc,
sur la réforme du qualifiant.
Oui. Mais donc, les enseignants qui sont quand même poussés dans le dos par le PS et par toute une série, enfin, et par les syndicats, donc, enfin, mélangent un peu tout cela. Et alors que la réforme du qualifiant n'est pas celle qui est envisagée. Donc, je pense qu'il y a donc deux problèmes. Les réformes n'ont pas été suffisamment expliquées. Je pense qu'il faudrait que les ministres, l'ont fait, mais tardivement, puisque Valérie Glatigny a fait tous les plateaux de télévision ces derniers temps, Elisabeth De Grees aussi, mais donc il y a un effort d'explication et de pédagogie à faire. Et je termine en disant qu'il y a quand même un problème, il y a encore deux problèmes, comme l'État fédéral, la Fédération Wallonie-Bruxelles est exsangue,
hein,
donc c'est quand même...
Elle est à l'os,
Elle est à l'os, et par ailleurs, toutes les études montrent que l'enseignement francophone est... correctement financé et qui reste très inégalitaire. Donc, il a besoin quand même de réformes. Et donc, faut quand même agir.
Mais vous le savez, Francis Van Woonstein, les enseignants, les directeurs, les acteurs d'enseignement ont dit, attention avec le pacte d'excellence qui a débuté en 2017, c'était avec Joël Miquet, eh bien, les réformes sont trop rapides, elles s'enchaînent, et finalement, les directions d'école, les enseignants n'arrivent plus à suivre. Vous comprenez cette critique, Catherine Hernandez? Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas mettre sur pause
le problème n'est pas le pacte d'excellence aujourd'hui. Le pacte d'excellence, justement, on sortait d'une logique où chaque fois qu'on avait un nouveau gouvernement, on changeait de plan et on allait dans une autre direction. Donc avec le pacte d'excellence, on devait aller jusque 2030 avec quelque chose d'échelonné. C'était pas mal pour la tranquillité, enfin entre guillemets tranquillité. Ici, on a un nouveau gouvernement qui vient mettre du bazar dans tout ça, ce qui n'était pas prévu.
La réforme du qualifiant était déjà prévue, hein.
La réforme du qualifiant, mais on a toute la problématique des statuts, etc. Donc qui vient s'ajouter, qui n'était pas prévu. Alors j'entends qu'il y a des problèmes budgétaires et c'est vrai qu'il faut les résoudre, mais il y a surtout un problème de pénurie, et c'est le principal. D'ailleurs dans Moustique on fait 10 pages qui sortiront mercredi, qui analysent ce problème d'une profession qui est en crise.
Et justement la ministre obligatoire, l'enseignement obligatoire Valérie Glatigny dit que le passage en CDI spécial enseignant, eh bien, va permettre de diminuer cette pénurie. Est-ce que c'est exact de le dire ou alors c'est juste de la communication?
Alors, honnêtement, moi, pour avoir travaillé sur la question, il n'y a personne qui y croit. Sur le
personne
terrain, personne ne croit que c'est ça la solution. Et la solution serait plutôt de faire en sorte que les jeunes aient une reconnaissance de leur ancienneté et de leur travail tout réseau confondu, parce que pour le moment, on est vraiment dans des problématiques, mais je vous assure, j'ai entendu des témoignages, c'est terrible ce qu'on leur fait vivre, hein. Et il y a un tel différentiel entre ceux qui sont nommés et ceux qui ne le sont pas dans les conditions de travail, que c'est épouvantable. Et le CDI ne va pas résoudre ça, parce que les nommés vont dire, mais si vous voulez avoir un CDI, c'est n'avoir aucune perspective d'avoir un jour, en tout cas c'est dans leur tête, d'avoir un statut de fonctionnaire.
Oui, et donc avec les fins de régime pour les pensions, par exemple,
or,
la fin de
carrière. C'est ça qui appâte quand même au niveau des conditions salariales les professeurs.
Karine Sagesser, j'ai l'impression que, notamment concernant ce CDI spécial enseignement, ce CDIE, sur les réformes aussi du qualifiant, à savoir la suppression de la 7e qualifiante et pas professionnelle, et aussi sur le tronc en commun qui arrivera à la fin du processus à partir de 2028, eh bien c'est là-dessus que les engagés et le mouvement réformateur vont peut-être batailler alors qu'ils sont partenaires de majorité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté différente de mettre en place ces réformes ou pas ?
Non, je ne crois pas. Moi, à ce stade, moi, j'ai plutôt l'impression que les partenaires s'en tiennent à la déclaration de politique communautaire. Maintenant, il va falloir effectivement communiquer, voir si dans l'application, on peut changer les choses. Moi, je crois que le problème, il est vraiment structurel. Catherine évoquait la pénurie. Moi, je crois qu'il y a une vraie dévalorisation du métier d'enseignant. Donc ce qui est annoncé maintenant génère des craintes complémentaires par rapport à une espèce de ras-le-bol, parce que les conditions de travail sont devenues très difficiles, et pas seulement à cause de l'action des pouvoirs publics. Oui, il y a l'action des pouvoirs publics, il y a la charge administrative qui s'est alourdie, etc. Et puis il y a aussi le fait que l'ambiance générale, la culture de l'enseignement est changée, et que les enseignants se trouvent bien souvent
le respect du professeur, par exemple.
Voilà, des choses comme ça. Donc ils sont de toute façon dans une forme de mal-être. Alors par exemple sur le CDI, moi j'ai entendu des choses contrastées. Effectivement, il y a toute une série d'enseignants qui protestent, et puis il y a des jeunes qui trouvent que c'est quand même pas mal d'avoir la perspective d'être stabilisé à court ou à court terme par rapport à la situation précédente. Donc voilà, il y a des choses à faire. Le tout, c'est, je crois, aussi de se montrer à l'écoute et de ne pas être trop autoritaire dans la façon dont on impose des choses à un corps enseignant qui se sent déjà dévalorisé, méprisé, etc. Il faut travailler en collaboration avec tous les acteurs de l'école.
Dernier mot avec Francis Van Oosten pour conclure. Voilà, on annonce plusieurs milliers de manifestants aujourd'hui, une grève de 48 heures. Oui. C'est quoi la suite ? On nous dit que les syndicats ne voudraient pas revivre ce qu'ils ont pu vivre à l'époque, lorsqu'ils étaient jeunes militants ou jeunes professeurs, par exemple, ce qui s'était passé au milieu des années 90.
La solution, c'est la concertation. La concertation. Il faut que les ministres écoutent.
Un rapport de force aussi, Francis.
Oui, ça, c'est, la concertation, c'est un rapport de force. Donc, mais ça, il faut que les ministres, non seulement, écoutent réellement et qu'il y ait une vraie concertation. Autrement dit, que ce ne soit pas à prendre ou à laisser. Mais j'imagine qu'il y a une marge dans une négociation, c'est toujours ce qui existe. Mais voilà. Il y a des conservatismes, je le dirais, dans toutes les professions. Il peut y en avoir du côté des enseignants, même si je considère aussi que c'est Caroline a bien expliqué, c'est un métier qui est en souffrance maintenant, parce que les jeunes ont moins de respect pour l'autorité en général, pour les professeurs en particulier. Il y a aussi une responsabilité parentale, hein. Beaucoup de parents démissionnent un peu et laissent une mission d'éducation aux professeurs. Donc c'est un métier très compliqué. Moi, je ne considère pas que proposer un CDI, CDI, on sait ce que ça veut dire, un contrat à durée indéterminée.
Oui, spécifique aux enseignants.
Oui, dès le début de la carrière, soit nécessairement plus négatif que d'attendre une nomination
un deuxième pilier de pension.
Après 10 ans. Donc je considère que c'est un progrès, mais là encore, je n'ai pas réalisé l'enquête que Catherine a faite. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fake news aussi, qu'on leur fait croire nécessairement qu'un CDI est moins bien qu'une nomination. Mais il y a des CDD aussi, encore pire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées à avoir des contrats à durée déterminée. Là, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc, voilà. De plus, avec une pension qui est calculée sur les 5 dernières années. Moi, j'aurais bien voulu ça. Hein.
Eh bien, voilà. C'est dit et promis, on fera un autre débat prochainement dans cette émission concernant les réformes dans l'enseignement. Juste après la pause, Conor Rousseau est-il avant tout un communicant ou un président parti ? Quel rôle ont joué les syndicats pour bloquer justement Voreuil dans ces négociations ? Ce sont les thèmes. Notre prochain débat. À tout de suite, juste après la pause.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
I just woke up from a dream, you and I. had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
Du coq. Le chant du coq, c'est chaque jour entre 4h et 6h. 100% chanson française.
Soyons zen. Sans froid dans les veines, soyons zen. Je lui tirerai les mots bleus.
Bon réveil avec le chant du coq. Tous les matins entre 4h et 6h sur LN Radio. Retrouvez toutes les radios digitales LN Radio sur l'application LN Radio. Retrouvez toutes les fréquences LN Radio en Belgique sur lnradio.be. Bonsoir le club, Maxime Binet.
Très heureux de vous retrouver sur N24 et sur LN Radio. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette émission. Bonsoir le club, émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses. Nous sommes toujours avec nos trois chroniqueurs d'exception, j'ai envie de dire, avec Karine Sagesser, Francis Van Woonstein et Catherine Ernens. Conor Rousseau est-il avant tout un communicant ou un président de parti? Pourquoi alors que beaucoup annonçaient un accord pour ce week-end, tout a été retardé? Quel rôle ont joué les syndicats? Ce sont les questions que nous allons nous poser dans notre prochain débat d'actu. Alors, je rappelle que Voreux était certainement le parti le plus réticent, mais engagés et le CDNV ne sont pas aussi emballés par l'Arizona que les libéraux, entre autres. Caroline Sagesser, Conor Rousseau est-il avant tout un communicant ou un président de parti?
Eh bien, nous allons le savoir bientôt, je crois. Hein.
Vous n'êtes pas encore fixé, alors.
Non, vous connaissez ce proverbe britannique, hein, the proof of the pudding is in it.
Oui.
Et donc là, effectivement, Conor Rousseau, on sait que c'est un candidat génial, on sait qu'il a effectivement conduit Voreux à une petite victoire au scrutin. On n'est pas encore tout à fait convaincu qu'il aurait été un bon négociateur de l'accord de l'Arizona. Hein. Donc, on va voir le contenu de l'accord et on va voir aussi surtout sa capacité à obtenir que cet accord soit validé par le congrès de son parti. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons quel genre de leader il sera lors du fonctionnement de ce gouvernement. Est-ce que on va avoir quelqu'un qui va jouer le jeu collectif et qui va se révéler être véritablement un homme politique? Ou bien est-ce qu'on va se retrouver face à un communicant qui va un peu continuer à faire de la communication en marge de l'action du gouvernement? Donc effectivement, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner.
Catherine Ernens, il ne deviendra pas ministre, hein, Conor Rousseau. On sait qu'il y avait cette idée à un moment donné que les présidents de parti intègrent...
Soient obligés.
Oui, ils sont obligés.
Hein, et c'était notamment pour l'obliger lui. Hein,
Ouais, vous pensez que c'était pas Jean-Louis Boucher?
Non, Boucher disait ça lui-même pour titiller Conor Rousseau
pour qu'il soit responsable et qu'il aille vraiment dans ce gouvernement. Alors, finalement, Conor Rousseau, c'est plutôt un communicant ou un président de parti, une personnalité politique ou un influenceur?
C'est un communicant politique.
Ok, c'est une nouvelle sorte qui apparaît aujourd'hui.
Absolument.
Définissez-nous un petit peu le profil.
Et en cela, Boucher est un communicant politique aussi. Hein, je veux dire, les deux profils sont là et Doever, depuis le début, essaye d'être l'adulte, si vous voulez, avec les deux gamins là qui font leur com à tout va et à tout vent tout le temps et c'est pas facile. Et donc effectivement la culture des réseaux sociaux, d'Insta ou de X pour Boucher prévaut sur souvent la bonne petite phrase, le bon prévaut ou la bonne petite prévaut sur le fait de négocier discrètement, en silence, etc. Et ça a posé tout au long des négociations, si on revient sur Conor Rousseau uniquement, des problèmes au point qu'on se demandait, parce qu'il y avait Frank Vandenbroucke qui est le vieux sage, qui est beaucoup plus raisonnable et qui voulait qu'on arrive à une solution beaucoup plus vite que Conor Rousseau, qui lui s'est agité, est venu avec ses 200, souvenez-vous, plus de 200 propositions. On était en décembre déjà, hein, ça faisait quand même un bout de temps qu'on négociait. Donc il vient, il est plein de dynamisme pour défendre et en allant un peu dans tous les sens parfois, oui.
Vous pensez la même chose, Francis Van Woonstein?
Pour moi, c'est une énigme, cet homme. Je ne sais pas si c'est un brillant communicant ou un mauvais homme politique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques, mais il y a peu d'hommes et de femmes d'État. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents, mais il y a peu de gens courageux. Et donc chaque fois je mettrai ça c'est dans la vie aussi, hein, donc je mettrai chaque fois Conor Rousseau, je dirais, dans les mauvaises catégories. Donc je pense que c'est plus un homme politique qu'un homme d'État, je pense que c'est plus un homme qui a l'intelligence peut-être de la communication mais qui n'a pas le courage politique nécessaire pour devenir un grand homme politique.
C'est en même temps beau ce que vous dites, Francis Van Woonstein, inspirant mais en même temps très critique envers Conor Rousseau, ce que
vous dites. Mais on se souvient d'il y a un an de qui était Conor Rousseau, hein, donc il a dû démissionner pour avoir tenu des propos racistes envers des Roms parce qu'il était complètement givré dans un bar, ça arrive à tout le monde. Pardon ?
Ça n'arrive pas à tout le monde.
Je voulais dire de tenir des propos racistes quand on est sous. Ça peut arriver, je veux dire, de boire un verre de trop.
Disons, ah oui, c'est ça, vous faites la distinction, voilà.
Je m'étais mal exprimé et je suis sain d'esprit, je veux dire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un homme très, très bizarre, hein. Cet homme-là qui surgit d'un peu d'une autre planète, qui est tombé dans le monde politique. Enfin, sa mère était aussi travaillait dans les cabinets ministériels, donc il a été baigné de politique. Mais c'est un homme qui c'est un peu, je dirais, un jardinier sur un porte-avions, vous voyez. Donc on se demande parfois un peu ce qu'il fait là, s'il va pas tomber à la mer. Et pour moi, je suis pas sûr du tout que ça deviendra un grand homme politique. Je me demande s'il va pas devenir un influenceur qui finira par vendre du parfum ou des vêtements.
Mais moi, je
suis séduit par l'homme, oui, peut-être.
C'est pas du tout une question de ça. Je comprends le point de vue, mais nous sommes tout de même en 2025 et effectivement, on fait plus la politique aujourd'hui comme avant. Et pour aller récolter des voix, le fait d'avoir cette posture d'influenceur, comme vous dites, fonctionne. Voilà. C'est ça aussi, la politique, c'est d'avoir un électorat.
Et le mot pour la fin de Caroline Sagesseur.
Je voudrais être un peu indulgente pour une fois.
Oui, c'est vrai que ce soir ont été particulièrement critiques.
Très critique, un peu méchant peut-être. Je voudrais dire qu'il est très jeune. Il est très jeune et très inexpérimenté. Donc voilà, donnons-lui un peu le bénéfice du doute et nous allons effectivement voir comment ce garçon va évoluer dans l'année à venir.
Y compris pour les propos racistes.
Mais là, on espère qu'il a, ayant fait amende honorable, on espère fermement qu'il n'y aura pas de récidive.
Caroline Sagesseur, un mot aussi sur le poids des syndicats et des engagements de gauche sur Voreut. Alors, Voreut est un parti socialiste différent que le parti socialiste francophone, mais ce poids, on le voit, est toujours bien présent. Je veux dire qu'Honoré Rousseau n'a pas l'air d'un président si puissant que cela.
Il doit nécessairement tenir compte de l'opinion publique, il doit tenir compte des syndicats, il doit tenir compte des organisations de l'historique pilier socialiste, il doit aussi tenir compte du PTB et du P22A, parce qu'effectivement, le PTB est en progression en Flandre, davantage en termes relatifs qu'en Wallonie. Et donc là, il y a la même, je dirais, menace sur sa gauche que celle à laquelle le PS est confronté dans l'espace francophone. Il doit en tenir compte.
Eh bien, merci Caroline Sagesseur, merci Francis Van Hoenstein et merci Catherine Hernandez d'avoir participé à Bonsoir le Club. Tout de suite, vous allez retrouver sur N Radio le meilleur de la musique. Très belle soirée.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
Mauvais garçon me rabaisse. Me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien. Qu'il est jamais au avec moi. Mauvais garçon me dénigre. Me donne tous les noms d'oiseaux. Mais les oiseaux, eux, sont libres. Et son amour est une prison. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête. De voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils. C'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon. Un jour sur deux il est pire qu'un. Mauvais garçon joue les tours. Et moi j'apprends les lois de l'amour. J'y connais rien. Et plus il me fait marcher et plus je cours. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mauvais garçon.
So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh.
love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
LN Radio. Hold on my hand and have I put on your jacket, wrap in the warmth. This is your song, tu me relèves. Encore une fois, reste dans mes bras. La la la.
Reste